Armand Sylvestre, conte audacieux. Le déluge de Mayenne, à Frédéric Mistral. Or, celle-ci me fut contée par un si noble poète que je vous enterrai le nom. D'aucun d'entre vous, et non les plus spirituels, étant capable de s'étonner qu'un tel homme s'amusât de bilvaiser, comme si rire n'était pas le propre de tous les braves gens, et que le génie fût condamné à demeurer morose. Celui-ci est, au contraire, comparable à la lumière, laquelle est la gaieté vivante du ciel. C'est d'ailleurs d'un paysan que le poète tenait l'aventure aussi naïve, pour le moins, que joyeuse par le menu du détail. Un curé crédule y est doucement berné, et un galant audacieux y joue son rôle. Mais parbleu, j'aime bien mieux vous dire les choses simplement, comme elles me furent, à moi-même, narrées dans le moins solennel décor du monde. Il y a fort longtemps de cela, avant, si vous le voulez, que le chantre immortel de Mireillot en fît le berceau d'une gloire, Mayenne n'était connue que par l'extraordinaire simplicité d'esprit de son curé. Le brave homme, à qui le paradis était acquis par avance, ne cherchait pas dans la Bible, son unique lecture, les beaux symboles qui en font le plus admirable poème des âges, mais il en prenait à la lettre tous les récits, et en traitait les paraboles comme d'anciens faits divers, réunis par un journaliste du temps, pour l'éducation de l'humanité. Moïse lui apparaissait comme un courriériste remarquablement informé, qui faisait son reportage jusqu'au pied des buissons en feu. Cette façon pratique d'interpréter la légende induisait le bon prêtre en mille pratiques compliquant sa vie. Aussi ne quittait-il pas son tricot, de peur que Dieu n'en profitât pour lui chiper une côtelette et créer une femme avec lui. Quand à table, une dame lui offrait innocemment une pomme, il reculait d'horreur et lui disait « Pardon, madame, mais je sais qu'il m'en cuirait. » Il ne se retournait jamais, quand il y avait un incendie, de peur d'être métamorphosé en statue de sel. Il portait les cheveux ras pour éviter le sort d'Absalon, et se cachait derrière les arbres quand il voyait un gamin armé d'une fronde, se souvenant de Goliath. Mais de tous les événements constituant la Gazette de ces temps lointains, le déluge était celui qui l'impressionnait le plus vivement. Un cours d'eau débordait-il dans le voisinage, il se sauvait comme un lièvre par les champs. Il passait à genoux le temps des sonores ondées qui battent aux vitres, le rappel de l'hiver en chemin. Puis, le péril passé, il pensait et se disait que l'iniquité des hommes n'étant pas moindre aujourd'hui qu'autrefois, il n'était nullement impossible que Dieu fût repris d'une hydraulique et vengeresse fantaisie. Et de fait, vous seriez, j'imagine, à la place du Très-Haut, dans le jardin fleuri des étoiles, vous prendriez certainement plaisir à compisser fort aigrement, comme disait Panurge, le microcosme de politiciens abjects et sans talent, d'imbéciles bavards et d'électeurs idiots que nous sommes maintenant. Cette incontinence volontaire de l'éternelle vessie dans le firmament ne serait que justice. L'obsession d'un cataclysme lyriquement humide, vraisemblable et imminent, devint telle pour le malheureux abbé qu'il ne songea plus qu'à en prévenir personnellement les déplorables effets. Avec une charité tout évangélique, il ne se préoccupa que de soi-même. Sur commande, presque sur mesure, il se fit construire par Calpestrou, le meilleur et seul menuisier de l'endroit, une petite arche à l'instar de celle de Noé, dont il avait vu le dessin dans les images. En même temps, il planta un olivier sur une hauteur voisine, et éleva un pigeon, destiné à lui en apporter le rameau libérateur, ce qui est pour cet oiseau une occupation, moins douce peut-être que celle de faire la cour à une vierge, mais bien préférable à celle d'être mangé, même avec des petits pois. Au plus haut du clocher, par une solide corde, il attacha le vaisseau, à qui il devait confier non pas seulement la moitié de son âme, mais son âme tout entière, et son corps avec, auquel il tenait infiniment. Ainsi, quand l'eau atteindrait le sommet de l'église, pourrait-il, en coupant le lien qui retenait son navire, s'élancer sur l'immensité, et y voguer tranquillement, comme l'antique patriarche. Et toujours à l'imitation de ces derniers, mit-il un couple des bêtes qui lui parurent utiles à son alimentation, dans cette nautique ménagerie. Poulet, qu'il aimait beaucoup en fricassé, et lapin qu'il adorait en gibelotte, lièvre et perdreau pour la saison du gibier, sans oublier un ménage de cochons dont il grignoterait sournoisement le lard dans les temps difficiles. Car vous savez que ce savoureux sous-derme du porc peut lui être volé en tranches minces, de son vivant, sans que sa santé en soit sérieusement compromise. C'est même le secret de l'affection de saint Antoine pour son compagnon, à qui il dérobait des sandwiches à l'heure où les restaurants de nuit eux-mêmes s'éteignent sous le clignotement mourant des becs de gaz. Ainsi le curé de Malliane se montra-t-il bien plus sagement éclectique que Noé, qui entassa follement, dans sa villa aquatique, un tas de bêtes nuisibles. Je vous demande un peu s'il était bien nécessaire de garder à l'humanité les précieuses compagnies des puces et des serpents. Noé n'était pas seulement un ivrogne, mais un inconsidéré, un patriarche bien intentionné, mais sans cervelle. Et si ses fils irrespectueux lui avaient enlevé sa casquette au lieu de la culotte, il n'aurait absolument rien trouvé dessous. Ainsi, bien muni de comestibles vivants, voire reproducteurs auparavant, notre curé prit la douce habitude de faire tous les soirs l'ascension du clocher pour aller coucher dans son aérienne guérite, en cas que le déluge arrivât durant la nuit. Et d'un cœur sans égoïsme, laissait-il, en se recommandant au Seigneur, dans une prière, sa servante Vivette à la maison, lui recommandant d'ailleurs de bien fermer le presbytère, qu'aucun mécréant ne lui vint voler ses confitures, auxquelles il tenait infiniment. Et, un bon couteau grand ouvert pour trancher la corde sur sa table de nuit, s'endormait-il ainsi juché dans le voisinage des astres, qui s'esclaffaient lumineusement dans l'étendue et sous le grincement narquois du coq de ferraille qui ouvrait au-dessus du clocher ses ailes rouillées. Or, Vivette avait-elle un amoureux, ce qui se comprend sans peine, car elle était avenante et délicieusement grassouillette, postérieurement dodue à faire mourir de jalousie les melons sur leur couche sans sommeil, brune parbleu, avec des cheveux où passaient des veines de lapis lazuli. Une bouche comme les murs qui ne le sont pas encore, et ne sont qu'une larme de pourpre aux branches des mûriers. Des yeux où passait dans l'ombre l'image sereine des étoiles. Un front limpide comme les sources, et des dents blanches comme un grésil. Alors, monsieur le curé? Non, godelureux voltairien que vous êtes. Monsieur le curé était un saint, et Vivette une fille sage, ce qui ne l'empêchait pas, comme vous l'allez voir, d'avoir beaucoup de gaieté dans l'esprit. Monsieur le curé ne lui avait jamais fait la cour. Il était trop occupé des menaçantes histoires de l'Ancien Testament et du devoir de son saint ministère. Mais un autre se chargeait simplement de ce soin. Le forgeron, Antoine, qui était un beau gars, fort aimé des filles, mais très rageur de tempérament. Celui-ci se mourait tout simplement d'amour pour Vivette, et le lui osait dire dans le langage le plus enflammé du monde. Quand il apprit de celle-ci que monsieur le curé découchait, pour la prudente raison que vous savez, il en éprouva à la fois une grande joie et une grande espérance pour la réalisation de ses vœux. Une nuit ou l'autre, Vivette se lasserait certainement de demeurer seule dans la mélancolie du presbytère. Le pieux verrou serait lestement tiré par elle, et tous deux s'embrasseraient dans un clair rayon de lune, dans une fiançaille de clarté tombant du ciel. Mais Vivette tenait bon, et refusait absolument d'ouvrir la porte. Alors le galant se fit humble, et demanda une moindre faveur qu'on ne lui pouvait guère refuser. À la porte était une façon de Judas permettant de voir le visage des arrivants, avant de leur ouvrir l'ouïe. Vivette y mettrait seulement son visage, qu'Antoine y put laisser un baiser sur le velours frémissant et duveté de la peau. La servante finit par promettre, mais à la condition que le galant fermerait les yeux. Elle avait son idée en tête, ou ailleurs, comme vous l'allez voir. Antoine ayant juré ses grands dieux de garder les paupières closes, légèrement elle se troussa, et lui bâilla à baiser, non pas la fraîcheur de sa joue, mais une autre patène plus large, plus ronde, et que les naturalistes bien élevés nomment « derrière ». Cive fessier. En religion, frère pétard, puisque nous sommes en pleine dévotion. Antoine baisa dévotement, mais non sans s'apercevoir de la ruse, et sans rien dire pour l'instant, il en conçut un épouvantable dépit. Ici j'arrêterai le poète et le paysan tout ensemble, dans leur rustique récit. Et je leur avouerai que je ne comprends pas du tout la grande colère de cet imbécile de forgeron. Moi je trouve la plaisanterie tout à fait charmante, naturelle, et surtout amicale. Était-il donc si malheureux de tutoyer des lèvres le délicieux joufflu, l'ilial, monoculaire et abondant, monstrueux et harmonieux à ses heures, que les dames ne nous cachent d'ordinaire que pour nous éviter l'excès même de la tentation, qu'elles ne montrent généralement qu'aux gens qu'elles honorent d'une particulière et sympathique confiance. Plût au ciel qu'une que je sais bien me fit cette charitable aumône d'un baiser sur la naturelle doublure de ses jupons. Je vois d'ici le bon sourire de ce gros moine au sortir de son capuchon. Embrassons-nous, mon frère, pour la plus grande gloire de Dieu. Non, vraiment, vous ne trouvez pas comme moi ce monsieur ridicule? Baiser le postérieur de Vivette. Que ce soit mon châtiment durant l'éternité de torture que m'auront valu les débordements de ma folle jeunesse. Je suis merveilleusement résignée à mon supplice. Et si Vivette a des amis dans l'autre monde, je suis prête à leur baiser le postérieur aussi, dans l'amer souvenir de mon iniquité. Avis aux pécheresses aimables qui me donnent rendez-vous là-bas. Quelle brute, décidément, que ce bâtard de Vulcain. Ne conçut-il pas immédiatement son plan abominable? Après avoir remercié vivement Vivette de la faveur qu'elle lui avait octroyée, et lui laissant toujours croire qu'il avait cru la baiser sur la face, il lui demanda de réitérer le lendemain cette caresse discrète. Et Vivette, enchantée de son espièglerie, se promit in petto de lui tendre l'autre joue du même visage. Lâchement, sournoisement, quelques instants avant l'heure du rendez-vous, le forgeron rancunier souffla sur les cendres mal éteintes. Une constellation d'étincelles crépitantes en monta, et quand le brasier allumé fut comme un œil flamboyant dans l'ombre où la nuit était descendue, il posa un fer qui y rougit rapidement. Ayant appréhendé le métal ardent entre les extrémités recourbées d'une pince, il cacha celle-ci derrière son dos, et s'en fut soupirer sa romance devant la fenêtre qui s'ouvrit sans bruit. « Est-ce vous, Vivette ?»«
Oui, cher Antoine. »
« Monsieur le curé est sur son perchoir ?»«
Depuis une heure, déjà. »«
Voulez-vous me permettre de recommencer comme hier ?»«
Oui, comme hier, précisément, mon doux ami. »
Et elle se mit en posture. Lui, la canaille, avança brusquement le fer incandescent encore et le posa. Ça fit « pshh !»«
De l'eau ! De l'eau ! De l'eau !»
hurla la malheureuse servante, dont le fessier ardait sous cette cruelle caresse. Et elle répétait encore.
« De l'eau ! De l'eau !»
Ses cris réveillèrent son maître tout en haut du clocher. Le curé reconnut la voix de sa servante. « De l'eau ! » criait-elle. C'est donc le déluge qui commençait. L'eau allait atteindre le toit de l'église, sans doute. Il n'était que temps. Saisissant son couteau, le curé coupa la corde. L'arche délivrée roula le long des pierres effritées du clocher. Patatras. Elle s'écrasa sur le sol avec un fracas abominable, aplatissant sous les planches brisées tout ce qui avait vie dans ses flancs en lambeaux. Seul un lapin s'en échappa vivant, et ce fut un grand malheur pour les filles de Mayanne, chez qui il fit de très grands ravages. Avec mille commentaires, dont quelques-uns étaient railleurs et même malveillants, on enterra le pauvre curé. Des imbéciles prétendirent que sa naïveté avait été justement punie. Comme si les malins n'étaient pas encore moins intéressants que les autres. Dieu est plus clément que cela pour nous. Au printemps suivant, le pigeon que le malheureux abbé avait élevé s'en vint porter sur sa tombe, fraîche encore, une petite branche de l'olivier, dont les verdures étaient tendres encore. C'est que la mort est vraiment la délivrance et le salut, après ces naufrages sans fin, où l'homme lutte contre un déluge universel et éternel.